À l'heure où les difficultés économiques semblent s'abattre sur le monde, et en France bien sûr, les salles de spectacle et notamment les lieux alternatifs semblent entrer dans la zone rouge. On va aborder ce problème à la fois des difficultés économiques de ces lieux, mais aussi des contraintes, notamment des contraintes administratives et aussi du voisinage qui semble de moins en moins disposé à être quelque peu dérangé, sinon perturbé. Voilà, James Filzanga, bonjour.
Bonjour René.
Donc, effectivement, plusieurs lieux et plusieurs rues, on va dire, sont parfois critiquées par les habitants, donc forcément aussi par les mairies, hein, qui ont aussi en charge de veiller à la tranquillité des habitants, à ce que tout se passe bien en harmonie dans les lieux. Mais on a l'impression d'une pression nouvelle, de plus en plus exacerbée. Est-ce qu'on peut dire déjà que les personnes qui résident dans ces lieux, ou des salles de spectacle, des lieux donc, où le public entre, fait parfois un peu la fête, mais parfois se penche sur des problèmes importants, des lieux citoyens, donc est-ce que ces gens sont de plus en plus insupportés par la présence de vie sur la Terre, on va dire?
J'espère que non. Mais c'est vrai que, par exemple, l'un des problèmes par exemple, la salle de cinéma Libri de Conné à l'heure actuelle est un problème lié au voisinage, avec des problèmes de résonance de bruit lors des diffusions et aussi lors de l'accueil de public. Après, je pense qu'on ne peut pas généraliser ce genre de choses, mais oui, ça peut parfois poser problème lorsqu'un lieu accueille du public et que cette concentration de public provoque certains bruits au-delà d'une certaine heure. Il y a eu quelques autres exemples, je crois aussi que le cinéma L'Univers aussi avait eu quelques perturbations aussi, et quelques plaintes de voisins. Voilà. Nous, on a la chance finalement d'avoir un public assez calme, et donc nous pour notre part au Théâtre Massenet, on n'a eu aucun souci de ce genre. Enfin, je touche du bois.
Je connais aussi des communes, des petites communes où il y a des salles, des fêtes, et on a mis des détecteurs de bruit pour voir les niveaux et qui coupent le courant quand le niveau est trop fort. Ce sont des directives qui dépendent de la DAS ou des choses comme ça?
Je n'ai aucune idée, moi je ne sais absolument pas. Je ne crois pas qu'il y ait eu de contrôle sur les effets sonores qu'on pouvait produire nous en accueil public ou lors de représentation. Là, à vrai dire, c'est assez inquiétant qu'on se mette à mesurer les nuisances sonores des lieux culturels auprès du voisinage. J'ai pas l'impression que ça soit beaucoup plus gênant qu'un bruit de mobylette ou de scooter qui passe la nuit ou d'une ambulance. Enfin, peut-être qu'il faudrait aussi réduire les nuisances, enfin le bruit des sirènes, des ambulances ou du SAMU le soir pour pas perturber certaines personnes, non?
C'est vrai qu'à la campagne, il y a parfois le clocher de l'église ou les chants des coqs. Est-ce qu'on peut admettre qu'en ville, il y a un environnement culturel qui a aussi sa valeur ajoutée en termes de possibilités pour les gens d'accéder à la culture ou à des divertissements intéressants? Est-ce que c'est aux gens aussi, quand ils viennent habiter un quartier, de se rendre compte qu'ils vont arriver dans un endroit particulier avec ses spécificités et en admettre au moins une partie, charge aux partenaires culturels de ne pas exagérer.
Disons qu'un oui, les lieux culturels, on va dire alternatifs, ont souvent comme mission de développer des actions, on va dire de proximité auprès des voisins, des habitants du quartier dans lequel ces lieux sont implantés. Donc voilà. Enfin, moi après, je suis toujours étonné de voir des enfin voilà, d'entendre par exemple ce genre d'histoire où certains habitants se plaignent d'existence de lieux acteurs, des lieux de vie, des lieux aussi de citoyenneté. Enfin, c'est voilà. Alors après, c'est difficile de théoriser sur ces quelques cas, quoi, en tout cas. Mais je sais pas. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une plus-value pour un quartier de bénéficier d'équipements culturels qui défendent une programmation, on va dire, ouverte on va dire, aux voisins et aux personnes fréquentant le quartier. Je pense que c'est plutôt un atout, oui.
Alors, il existe une panoplie de nouveaux textes, de réglementations. On peut parler de la fumée aussi, hein, du fait que les gens souvent sortent, vont sur le trottoir pour fumer. Et forcément, quand ils sont sur le trottoir et qu'ils sont plusieurs, ils ont tendance à discuter, parfois un peu fort. Donc, chaque réglementation, finalement, aussi ses effets pervers, hein, qui ne sont pas forcément analysés avant qu'on invente ces textes.
Non, c'est vrai que, enfin, en pratique, on se retrouve, oui, effectivement, parfois des heures quelque peu tardives. On retrouve des spectateurs qui sortent après le spectacle, enfin voilà, fument une cigarette et échanger autour de ce qu'ils ont pu voir. Après, j'ai jamais eu l'impression, que ce soit au Théâtre Massenet ou dans les autres lieux que je fréquente, d'avoir vu des comportements qui pouvaient perturber le voisinage. Alors voilà. Alors, ensuite, c'est vrai que bon, il suffit qu'il y ait un voisin qui souffre, voilà, ou qui porte plainte pour ce type de bruit. La question est de savoir, voilà, est-ce que ces structures-là ont les moyens d'aménager des espaces, par exemple, pour attirer les fumeurs. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de sas fumeur, comme on peut retrouver dans certains endroits. C'est délicat de mettre en place ce type de lieu-là, et les moyens sont souvent inexistants pour ce type de travaux qui sont quand même des travaux onéreux.
Est-ce que les habitants du quartier, on peut imaginer de les associer au projet, de les faire visiter les lieux, de discuter aussi en amont pour éviter après une mésentente?
Sans doute. Alors, nous, de notre côté, on a une grosse volonté d'associer les habitants du quartier, les associations voisines dans la programmation du Théâtre Massenet. On est soutenu par un certain nombre de collectivités, de structures pour mener ce travail en amont. Et cela va de la visite du théâtre à la présentation de répétitions, de choses comme ça. Donc on essaye au maximum de croiser, voilà, de faire venir le public, enfin assister à ce qu'on fait pendant, mais aussi en amont des représentations. Donc voilà. Après, oui, je crois que, enfin, en tout cas, nous, au Théâtre Massenet, on a vraiment, quand on a rouvert le théâtre en 2008, l'une des volontés était d'associer différentes dynamiques qui étaient déjà existantes sur le quartier pour les insérer ou pour créer des rencontres à l'intérieur du théâtre. Donc voilà, je crois que le lieu aujourd'hui est bien identifié dans le quartier. Il est fréquenté par pas mal d'habitants, grâce aux différents partenariats qu'on a pu créer sur le quartier. Donc voilà, je crois que c'est effectivement quelque chose qui est à prendre en considération. Et voilà, et peut-être que ça peut éviter ce type de malentendu.
Alors, il y a des lieux conventionnés, on va dire, en termes de cinéma, par exemple, par la DRAC, CNC, etc. Il y a des lieux qui sont privés mais ouverts au public. À cela, la réglementation s'impose. Alors, si des lieux peuvent être aidés, parfois, ceux qui sont conventionnés pour faire des travaux, notamment ceux dont on vient de parler, sonorisation, etc., d'autres doivent les prendre complètement en charge. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver... comme un peu les personnes qui pouvaient faire des travaux d'aménagement, d'insonorisation de façade, etc., déduire ça de ses impôts, par exemple, des mesures fiscales ou des mesures d'aide qui permettent de rentrer dans les normes qui sont de plus en plus drastiques.
Alors, concernant les lieux, des associations qui sont locataires des lieux qu'elles occupent pour la programmation, il faut noter que depuis un certain nombre d'années, les normes d'accueil et la réglementation d'accueil des publics est de plus en plus drastique, avec des normes qui sont de plus en plus dures à respecter et souvent avec du coup des interventions et des travaux qui sont de plus en plus importants. Donc voilà, enfin, ce que connaît l'hybride à l'heure actuelle, je crois que le devis des travaux, tout ça, est estimé entre 100 et 150 000 euros, et c'est effectivement une somme qui est impossible pour l'association. Voilà, c'est une somme qui est impossible à payer pour cette association-là, sachant que je crois qu'elle est à 22 000 euros de subvention de fonctionnement par an, donc c'est quand même, voilà, c'est très très peu par rapport au coût des travaux qui sont à réaliser. Voilà, alors après la question, c'est que ce type de lieu est aussi subventionné, enfin les missions sont reconnues par un certain nombre d'institutions, que ce soit la ville, le département ou la région, donc c'est des lieux qui mériteraient du coup, enfin voilà, enfin ils mériteraient du coup d'avoir un écho de la part de ces institutions-là par rapport à ces problèmes liés à l'accueil du public ou des questions de sécurité, et c'est... voilà, alors il y a eu un appel aux dons pour permettre déjà la mise en route des travaux, mais c'est voilà, c'est des, enfin ça touche une somme tellement importante que c'est ça me paraît très très compliqué quoi. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple à l'heure actuelle d'être un lieu conventionné que l'inverse, voilà. Enfin, voilà, aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment une fracture de plus en plus grandissante entre ces deux types de lieux, et pas uniquement sur ces questions de sécurité ou d'aménagement d'espace, hein, sur plein d'autres choses. Et c'est de voir, par exemple, un lieu comme l'Hybride ou le Théâtre de la Verrière qui a perdu son conventionnement récemment, être en grande difficulté, ou en tout cas en difficulté, c'est assez inquiétant, et ça demande sans doute des prises de position politiques des partenaires. Mmh.
Alors effectivement, les solutions ne sont pas simples à trouver. Par exemple, au niveau des politiques tarifaires, ces lieux alternatifs souvent ont des publics qui ne sont pas forcément les plus aisés non plus. Mmh. Donc la répercussion des travaux sur le prix d'entrée, c'est quelque chose d'illusoire également.
C'est totalement illusoire. Ouais. Enfin, aucune salle de spectacle, même conventionnée, ne peut, ne peut imaginer la billetterie comme un moyen de mettre de l'argent de côté pour combler des dépenses extraordinaires, entre guillemets, quoi.
Bon, il y a des tentatives parfois de faire appel à des dons. Mm-hmm. Ça a aussi sa limite. Bon, parfois, ça peut fonctionner.
Oui, alors après... après, je crois que, par exemple, pour revenir à l'association Libri, il y a eu un appel aux dons qui a été mené. Je crois que lors de la précédente AG qu'il y a eu la semaine dernière, l'ensemble des dons avait atteint une somme de 8 000 euros, qui est une somme quand même conséquente. Mais voilà, enfin le fait d'aller chercher secours ou recours à de l'argent privé ne doit pas pour autant remettre en question la prise de position des pouvoirs publics sur ce type de lieu. Et même si l'appel au mécénat peut permettre parfois de développer des projets qui sont pas pris en charge par les institutions publiques, ces dernières, elles doivent quand même se poser la question de leur soutien, de la nature de leur soutien, et en cas de difficultés difficilement maîtrisables, quelle est leur position pour la survie de ces lieux culturels alternatifs, parce que là, pour ce qui concerne l'Ibris, c'est une vraie, enfin, c'est vraiment une question de survie pour ce lieu-là.
Alors, sans forcément les citer, est-ce qu'il y a beaucoup de lieux culturels qui sont dans le rouge actuellement ?
Il y en a, oui, il y en a quelques-uns. Et je pense que le reste de ce type de structures ne sont pas, voilà, on doit avoir des grosses difficultés à se projeter sur du court et du moyen terme. Nous, pour notre part, on est à l'heure actuelle sur un fonctionnement qui est équilibré, mais il est aujourd'hui impossible de se projeter sur 3-4 ans. Et du coup, ça pose des vraies questions sur le développement structurel du théâtre, notamment en termes d'effectifs salariés. Voilà, c'est très difficile du coup de pouvoir inscrire un salarié sur une durée indéterminée, ce qui est quand même la base d'un contrat, on va dire appréciable. Et ensuite, nous, si on perd un partenaire, ce sera très rapidement le fonctionnement global de la structure qui sera remis en cause. Là, on sort de deux, par exemple, pour citer notre cas, on sort de deux exercices où le bilan comptable est négatif, on a perdu de l'argent. Là, celui de 2011 sera à l'inverse. Excédentaire, mais avec des restrictions qui ont été prises sur notamment un poste qui était présent et qui n'a pas été reconduit dans son intégralité.
Est-ce qu'on ressent l'effet, entre guillemets, de la crise sur les financements publics, sur la participation des spectateurs d'ailleurs?
Ouais, alors. Moi, je connais pas les taux de fréquentation des autres salles. Nous, pour nous, on a un public croissant depuis la réouverture. Là, on approche un taux de fréquentation de 80%, alors qu'on n'a pas une politique d'abonnement, par exemple. Donc, il y a une présence du public qui est, en tout cas chez nous, réelle et concrète. Depuis 2008, il y a une restriction budgétaire de la part de l'État. Et qui s'est répercuté ensuite dans les politiques menées par la DRAC au sein des régions. Aujourd'hui, un lieu comme Masny, qui pouvait être subventionné sur le fonctionnement il y a encore 5-6 ans, ne l'est plus à l'heure actuelle. Nous, par exemple, on reçoit 0 euro de la part du ministère de la Culture pour le fonctionnement de notre structure. Par contre, sur des projets, ça nous arrive d'avoir de l'argent, mais c'est des subventions d'action et pas de fonctionnement. Et on le sent vraiment, en ce qui concerne les retours qu'on a des partenaires au niveau de la région, du département, c'est une situation délicate, une impossibilité de croître les subventions. Donc il y a une sorte de discours un petit peu fataliste qu'on entend un peu partout, quoi.
Est-ce que cela veut dire que l'État, en restreignant certains financements à certaines structures, a fait des choix par rapport à des lignes artistiques, à des projets artistiques qui doivent correspondre à une norme qui est définie, par exemple?
Ça, je ne sais pas trop. Alors, c'est très bizarre. Par exemple, nous, on a, comme je te le disais tout à l'heure, on ne reçoit pas d'argent de fonctionnement de la DRAC, mais on a des experts DRAC qui viennent voir quasiment tous les spectacles. Donc, je pense qu'on a un travail qui est reconnu, qui est suivi, mais qui ne rentre pas dans le champ d'éligibilité de subventionnement. Donc voilà. Après, je crois qu'il y a aussi une véritable volonté politique de soutenir un certain type de théâtre, où sans doute les lieux conventionnés connaissent un petit peu moins de difficultés que nous, ou en tout cas, voilà. Mais oui, je crois qu'il y a un vrai choix politique de la part de l'État en termes de politique culturelle et pas forcément en ligne artistique, parce qu'on peut retrouver, par exemple, dans un lieu comme le nôtre, des artistes qui fréquentent des lieux conventionnés, des scènes nationales, des choses comme ça. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que nous, qui programmons des artistes émergents de la région, on est aujourd'hui cantonné à ce rôle-là. On nous dit qu'on accueille par exemple trop de compagnies, pas forcément dans de bonnes conditions. Donc parfois on a un peu un message qui nous dit accueillez moins de gens, mais mieux, mais peut-être que là on pourra faire quelque chose. Mais après, si aujourd'hui on accueille entre 15 et 20 créations par an d'artistes qu'on soutient, c'est parce qu'on croit à leur travail et qu'on a envie, voilà, on a envie de les accompagner sur différents projets artistiques. Et moi, je me vois mal refuser 10 projets artistiques que je trouve pertinents à Massenet parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'en retienne que 4, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est parfois je trouve que les discours qu'on peut recevoir sont pas toujours adaptés à la réalité du terrain, quoi. Et après je pense que dans différentes régions il doit y avoir aussi d'autres déséquilibres entre le discours qui vient d'en haut et ce qui existe réellement sur le terrain.
James Nzwanga, on peut peut-être parler un petit peu du Théâtre Massenet, de sa programmation maintenant.
Ah oui, on peut, oui.
Alors.
Je vais parler de l'actualité sur ce mois de février, sur le mois de mars, rapidement. Donc on accueille deux créations là ce mois-ci, une ce week-end du 2 au 4 février. Une création de théâtre et marionnettes tout public par la compagnie de Guingoua qui s'appelle « La princesse et l'homme sans cœur ». Ensuite, du 16 au 18 février, on va accueillir la compagnie Plastilina, qui est par exemple un exemple qui confirme ce que je disais tout à l'heure, une compagnie qui est associée au Théâtre d'Arras, qui est scène conventionnée, avec un spectacle qui s'appelle Burlesque, bidule en suspension et catastrophe de synthèse, mis en scène par Valentin Duhamel. Et au mois de mars, on a un grand rendez-vous, qui sera le festival Jeux de rôle, où on va accueillir différentes associations et compagnies artistiques autour des thématiques féministes et autour de la thématique du genre. Donc ce sera du 16 mars au 31 mars. Et les différents partenaires seront par exemple les Rencontres Féministes, la Brigitte Nielsen Society et la compagnie Ratibus.
Bien voilà. Qu'est-ce qu'il est important de faire pour soutenir par exemple le Théâtre Massenet ou d'autres en tant que public, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors après il y a venir au spectacle l'intérêt de ces lieux-là c'est leur implication, leur volonté d'action et c'est des lieux de citoyenneté, c'est des lieux de proximité et pour les lieux qui ont besoin de dons, envoyer des dons et puis se tenir au courant un petit peu des politiques culturelles locales.
Merci James Nzwanga d'être venu nous voir et à bientôt.
À bientôt.